Parlant de tradition, c'était l'action de grâce aux États-Unis hier. Ça, c'était une méchante belle tradition. Puis je le dis très sincèrement, les réunions de famille, le repas autour de la dinde, les matchs de football en après-midi. Et après ça vient le magasinage du Black Friday. Et hier, Donald Trump a répondu aux questions des journalistes hier. Puis on a comme senti qu'il, encore une fois, est en train de préparer le terrain pour effectivement céder le pouvoir à Joe Biden en janvier prochain. On va en parler d'ailleurs de ce qui se passe aux États-Unis avec le chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, notre ami, ce n'est pas Pitbull, c'est Raphaël Jacob. Salut Raph!
Ça détonne quand même, hein? Quand t'entends le chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand, puis tu fais Pitbull dans le background, là, c'est oui. Comme, on appelle ça la dissonance cognitive.
Mais ça te rend sympathique.
Plus sympathique pour moi.
Écoute,
tu parles, avant d'aller plus loin, tu parles de tradition puis de Thanksgiving. Je sais que t'es un amateur de football, un amateur beaucoup. De la NFL, beaucoup. Oui. J'ai lu quelque chose de très comique qui est passé sur les médias sociaux hier. Et pour les fans de football, et surtout les fans de football à Thanksgiving, vont l'apprécier. Parce que les Lions de Détroit, comme tu le sais sans doute très bien, jouent. Oui. À toutes les années à Thanksgiving à la maison, c'est toujours eux qui jouent le premier match.
À midi et demi.
À midi et demi, exactement. Et ils ont perdu hier, comme ils perdent à chaque année. En fait, je pense que la dernière partie de Thanksgiving qu'ils ont gagnée remonte à quelque chose comme 2003. Et donc, il y a quelqu'un qui a envoyé un commentaire hier qui disait, à la fin du match, après leur défaite, « Bon, les Lions de Détroit ont perdu. » On peut commencer à fêter Thanksgiving, la tradition est respectée.
Mais il y avait un autre bon ce matin, puis je l'ai retweeté d'ailleurs. C'est sur les Redskins de Washington qui ont battu Dallas hier, puis qui se retrouvent en tête.
Oh, excuse-moi, tu veux dire l'équipe de football de Washington.
Le Washington Football Team, t'as raison, quelle précision. Ouais. Mais l'équipe de Washington se retrouve en tête de la division et l'équipe a retweeté avec son compte « Stop the count », parce qu'ils sont en tête. Et, petit clin d'œil à Donald Trump là-dessus.
Mais c'est que c'est pas juste ça, c'est que tu sais, ça va donner une chronique football, mais cette division-là, c'est drôle parce qu'effectivement, on devrait arrêter de compter. Parce que je pense que là, ils sont rendus premiers avec une fiche de quoi? 4 victoires, 6 défaites, quelque chose comme
c'est ça. Exactement.
7 défaites. T'sais, toutes les équipes sont en bas de 500, fait que tu pourrais potentiellement voir... à la fin de la saison, une équipe qui fait les séries avec une fiche perdante.
Exact.
C'est hallucinant. Là.
Exactement. Hey, Raphaël, écoute, j'aimerais ça parler de football avec toi toute l'après-midi, mais parlons un petit peu de Donald Trump, qui hier a dit, bon, il était questionné par les journalistes, puis bon, on essaie de voir s'il va céder le pouvoir, puis il dit, oui, je vais le faire, puis vous savez que je vais le faire. Mais en même temps, quelle crédibilité on doit accorder
tout ça? Moi, ce qui m'a fait rire, je sais pas pour toi quand t'as entendu ça, mais tu sais, quand il dit, vous savez que je vais le faire, comme si c'était évident, ça fait 3 semaines qu'il dit que l'élection a été volée, puis hier, il a répété ça aussi. Fait que tu sais, d'un côté de la bouche, il dit, ouais, vous savez, je vais partir, puis en même temps, il continue à répéter qu'il a été volé, puis plus ça va, et je dirais, plus c'est absurde les arguments qui sont donnés. Donc, hier, ce que le président disait devant les journalistes, c'était que quand tu compares, selon lui, là, quand tu comparais la performance de Joe Biden à celle de Barack Obama quand il était candidat, là, je présume en 2008 ou en 2012, Biden avait moins bien fait qu'Obama partout, sauf dans les états clés dont il avait besoin pour battre Trump. Tu sais, je dis, c'est du pur n'importe quoi. C'est appuyé par absolument rien. Mais ça continue à mettre de l'huile sur le feu. Tu sais, on est rendu à peu près, grosso modo, puis c'est probablement quelque chose que j'ai déjà dit en ordre, mais je me permets de le répéter, à peu près 80% des électeurs de Donald Trump qui pensent que cette élection-là a été décidée par de la fraude puis des votes illégaux. Mm-hmm. Tu sais, fait que d'un point de vue démocratique, c'est grave, même si le type part. De toute façon, il va partir, tu le sais comme moi, il va partir le 20 janvier.
Oui.
La question est pas là. La question, c'est de savoir quelle marque au pluriel, là, ça va laisser. Ce discours-là répété des mois avant l'élection, puis là, clairement, des semaines après l'élection, ces espèces de délires de fraude puis de vol, c'est hyper toxique.
Ouais. Parce que c'est intéressant la question que tu poses, c'est quelle marque ça va laisser, Raphaël? Parce que moi, je vois une différence, puis il y en a qui vont me dire, je suis convaincu, Landry, t'es dans le champ, mais je vois une différence entre faire croire que l'élection t'a été volée et s'accrocher au pouvoir. S'accrocher au pouvoir, ça voudrait dire s'accrocher obstinément à dire, je reste dans le bureau ovale, même si je dois sortir, je suis encore le président. On dirait que Trump, il joue sur les deux tableaux. C'est-à-dire que il va sortir, je pense, du bureau ovale. Je pense qu'il va le faire. Il va quitter ses fonctions, mais il va continuer de faire croire à ses sympathisants, à ceux qui croient en lui, que l'élection a été volée. Moi, je trouve ça d'un très, très hypocrite, très pernicieux. Tu sais, je vois une nuance entre les deux, moi. Comprends-tu?
Ouais, si je comprends bien, c'est un petit peu la discussion que tu avais avec Jonathan un petit peu plus tôt cette semaine.
Oui.
Puis je comprends chacun votre perspective, parce que lui, ce qu'il disait, il me corrigera quand il reviendra de la chasse. Là, ouais. que de toute façon, même s'il voulait s'accrocher, il peut pas s'accrocher. En même temps, je comprends ton argument de dire qu'il pourrait, à la limite, là, théoriquement, dire je pars pas, je reste physiquement là. Je te dirais qu'en ce qui me concerne, je suis un petit peu entre vous deux. C'est-à-dire que théoriquement, là, en poussant vraiment l'argument, oui, il pourrait rester, essayer de rester. Là, éventuellement, il se ferait escorter, évidemment, à la sortie. Ouais. En même temps, il faut réaliser que l'emplacement géographique du président n'a pas vraiment d'importance dans la mesure où ce qui détermine qu'il a le pouvoir de la présidence, c'est pas où il se trouve, c'est la date du calendrier. Ouais. La date du calendrier, à partir du 20 janvier à midi, il n'a plus aucun pouvoir constitutionnel. Le seul pouvoir, en fait, qu'il détient encore comme ex-président, puis c'est, soit dit en passant, dans le contexte de Donald Trump, c'est pas un pouvoir nécessairement bénin, là. C'est le pouvoir d'avoir accès aux briefings, donc au brefage quotidien pour tout ce qui est service de renseignement. Au-delà de ça, il perd tous ses pouvoirs. Donc, écoute, qu'est-ce que ça changerait au final? Je suis pas sûr, sauf, en fait, à la fois d'envoyer une image épouvantable des États-Unis à grandeur de la planète, et surtout, en fait, je dirais, de l'humilier lui-même, parce que tôt ou tard, il serait escorté. Là, je te pousse encore une fois ton scénario là à la limite. Alexandre. Il serait escorté. Faudrait qu'il sorte. Et c'est un petit peu la même chose qu'on a en fait depuis les derniers jours. Là. Depuis qu'il a commencé vraiment plus de façon évidente, je te dirais, à ouvrir la porte à, pas nécessairement une concession, là, mais tout au moins reconnaître qu'il va partir, entamer le processus de transition, tout ça. Il y a rien de gracieux puis noble là-dedans. Là. Il fait pas par bonté de cœur ou pour respecter la démocratie. Il le fait, je pense, d'abord et avant tout pour sauver la face, parce que pour ce qui est, par exemple, du processus de transition, donc on a parlé beaucoup cette semaine du fait que ça allait être enclenché, en fait, maintenant que ça a été enclenché, ce qu'on a moins dit, c'est que ça allait se faire avec ou son aval personnel anyway. Ouais. Dès que le collège électoral allait certifier les résultats au plus tard, là, dans à peu près 2 semaines, ça allait s'enclencher de toute façon. Mm-hmm. Donc, le fait de dire « je vais partir », c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, c'est une façon, d'abord et avant tout, d'essayer de sauver un petit peu la face avant d'être forcé de partir anyway. Là.
C'est ça. Puis, juste pour finir sur cet aspect-là de la discussion, Raphaël, c'est que je me souviens qu'il y a certains chroniqueurs, à un moment donné, qui disaient « Ah, regardez, Trump va s'accrocher au pouvoir », dans le sens où on essayait de faire des liens un peu avec Poutine. Tu sais, Poutine en Russie, tu sais, lui a changé la constitution. Ça fait longtemps qu'il devrait plus être président russe, là, s'il avait suivi la constitution. Puis mon point, c'est de dire, aux États-Unis, c'est pas possible de faire ça. D'un, parce que les Américains accepteront jamais ça. Ouais. Parce qu'une constitution, puis il y a des choses qui sont sacrées aux États-Unis.
Oui, exact. Puis, tu sais, écoute, je pense que tu le sais, là, ça fait 7 semaines qu'on se parle des dérives démocratiques et du viol, là, carrément, de certaines normes démocratiques qu'on voit aux États-Unis. En même temps, depuis des années, je pense qu'on va un petit peu fort en comparant justement Trump à Kim Jong-un, puis à Poutine, puis en disant qu'on va tomber dans une dictature. Il faut quand même faire preuve d'un peu plus de nuance que ça. Voilà. Donc, non, effectivement, on ne va pas voir ça. En ce qui me concerne, ça n'a jamais été une option vraiment considérable là, qu'on allait assister à quelque chose de la sorte. Maintenant, une fois que ça s'est dit, ce qui est entièrement possible et qui fait en fait partie un petit peu de l'histoire américaine, c'est qu'on assiste au début, puis là, c'est pas une prédiction, tout peut se produire, mais c'est pas entièrement impossible qu'on assiste au début d'une dynastie ou d'une grande famille politique. Je le dis grande dans le sens de l'importance, là, parce que Trump, évidemment, peut revenir. Son fils, je ne sais pas si tu as vu passer ça, c'est assez remarquable, son fils aîné Donald Trump Jr. là, serait le 3e choix présentement des électeurs républicains en vue d'une candidature dans 4 ans. Okay. Sais-tu après qui? Après son père, après Donald Trump, le principal intéressé, et après Mike Pence, le vice-président.
Fait qu'on est loin des Rubio et des autres potentiels vedettes.
On est loin en avance. Fait qu'écoute, t'as Trump, Pence, Trump Jr. Et comme c'était pas assez, t'as une certaine Lara Trump aussi, qui est, elle, la femme de Eric Trump. Donc, Donald Trump a plusieurs enfants, on le sait, évidemment. Ouais. Le premier, c'est Donald Jr., dont on se parlait il y a une seconde. Le deuxième, c'est Eric. Donc, Eric est marié à une femme qui a pris son nom de famille, Lara Trump, et elle semble sérieusement, présentement, considérer se lancer pour une course au Sénat. En Caroline du Nord, dans 2 ans, il va y avoir des élections de mi-mandat dans 2 ans. Donc, écoute, après le président Trump, est-ce qu'on aurait la sénatrice Trump? C'est très possible.
Puis ça, on aime ça, les dynasties. Hein? Il y a eu les Kennedy, évidemment, les Bush, les Adams. Trudeau au Canada. Tu sais, ça pogne
Et je dirais qu'il y en a plusieurs, justement, d'un point de vue démocratique, qui diraient qu'il y a quelque chose d'un peu malsain dans une dynastie. Parce que souvent, quand tu as le fils, le neveu, puis le petit-fils qui arrive au pouvoir, souvent, ce qu'on entend, c'est il serait-tu vraiment là si son père ou sa mère avait pas c'est d'abord ça. Avant? T'sais, ce sont des questions légitimes qui se posent dans une démocratie. Évidemment, tout le monde ouais. est censé avoir une égalité d'opportunités. Est-ce que c'est vraiment vrai toujours en politique? Sans doute pas. Mais on s'entend aussi qu'il y a quand même une sacrée marge entre une dynastie à la Kennedy ou Bush ou Adams d'un côté et ouais. les Poutine et les Kim Jong-un de ce monde.
Là, exactement, exactement. Hey Raphaël, deux, trois affaires avant de te laisser aller. Premièrement, peut-être pour mettre la table, là, Trump faisait référence hier à la décision des grands électeurs. Ça, c'est le 14 décembre. Donc ça, c'est une des étapes importantes qui s'en viennent.
Oui, c'est ça. Donc, le 14 décembre, ce qu'on va avoir, ça va être une officialisation, là, pardonnez-moi l'expression, des résultats à l'échelle nationale. Donc, ce qu'on a depuis quoi les derniers jours, un petit peu au compte-goutte, c'est un État après l'autre, là, individuellement, un après l'autre, qui sortent pour certifier leurs résultats. Le 14 décembre, c'est tous les grands électeurs, les représentants, entre guillemets, si on veut, de ces États-là, des 50 États et du district de Columbia, la capitale de Washington, qui se réunissent pour certifier le tout à l'échelle nationale. Maintenant, parce que ça, tout le processus de transition a tellement été difficile depuis les dernières semaines et chaque étape devient presque assujettie à ce qu'on fasse des manchettes avec ça. Il y en a qui vont peut-être te dire que ce sera pas entièrement fini tant que le Congrès va pas à son tour officialiser ces résultats-là. Parce que il y a les États qui certifient chacun de leur côté. Après ça, il y a le collège électoral qui certifie oui. à l'échelle nationale. Et après ça, au tout début du mois de janvier, juste avant, à peu près deux semaines avant que le nouveau président soit assermenté, ben là, le Congrès officialise ou reconnaît, si on veut, les résultats du collège électoral. Donc, tu sais, à la limite, là, je pose ça vraiment à la limite, mais en même temps, on est dans un scénario qui est tellement surréaliste que c'est pas entièrement possible, là, qu'on ait encore des partisans, je dirais, aveuglément loyaux de Donald Trump qui disent, même après la réunion du collège électoral, ben, c'est pas encore fini. Le Congrès a pas encore, je veux dire, écoute, on va être rendu au 20 janvier à 11h59. Je pense qu'il y en a encore qui vont penser que Donald Trump va être là après midi et une, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, écoute, c'est juste la dynamique dans laquelle on est coincé présentement.
OK. Hey, merci beaucoup, Raphaël, de nous avoir parlé. Puis, je te souhaite un excellent week-end. On se reparle très bientôt, mon ami.
Même chose. Bye-bye. Hey,
Raphaël Jacob, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand. Et notre chroniqueur de politique américaine. Non, j'en parle de ça, Nico, l'histoire là, de quitter le pouvoir ou pas, parce que je sais que mes amis de la soirée T'es encore jeune ont un extrait de mes propos qui date il y a quelques mois avant la pandémie, où je dis à peu près textuellement, non, oubliez ça, là, Trump ne s'accrochera pas au pouvoir, les Américains accepteront pas ça. C'est pas de même que ça fonctionne aux États-Unis. Je le pense encore. T'sais, je pense que Trump peut continuer d'essayer de faire croire à ses supporters à une élection fraudée, une élection volée. Mais je vois une différence entre ça et refuser systématiquement d'abandonner ses pouvoirs. De toute façon, il peut pas les abandonner.
Tu parlais de janvier 2021, toi. Là.
Exactement ça. Ouais. C'est que ses pouvoirs, il ne les aura plus de toute façon. Puis je pense qu'il y a certains anti-Trump qui essayaient à un moment donné de bâtir une espèce de scénario comme quoi Trump est en train justement de se prendre pour Poutine puis de vouloir prendre le contrôle comme ça se fait dans des pays bizarres et dans des dictatures. Ouais. Puis mon point, c'était de dire, puis je prends les devants là, quand vous allez entendre l'extrait peut-être à cette émission-là, mon point, c'est de dire, les États-Unis, c'est pas ça. Les États-Unis, c'est une grande démocratie, c'est probablement la plus grande démocratie au monde. Puis il y a des choses qui sont sacrées et la démocratie en fait partie. Puis le changement de président... Les Américains accepteront pas ça, là, qu'un président s'obstine à dire que je suis encore le président ou qu'il essaie de changer la Constitution. T'sais, c'est impossible. Mais c'est impossible aux États-Unis.
Ça. T'es d'accord qu'à travers toute la grande histoire des États-Unis, s'il y en a un qui était pour essayer, c'est lui.
Oui, mais lui, là, quand tu vas prendre 400 ans ou 500 ans d'histoire des États-Unis un jour, là, ça va être un bref passage. Là. C'est plus grand que ça. Comprends-tu? C'est
absolument.
La démocratie américaine, c'est pas mal plus fort que Trump. C'était un peu ça, mon point de vue. Donc, quand vous entendrez des gens qui vont sortir un extrait hors contexte de mes paroles, vous aurez eu les explications d'avance et ma version d'avance. 10h38, vous êtes dans Trudeau-Landry, sans Trudeau, mais avec Nico qui est là et Benjamin aussi. Et vous autres qui êtes là aussi. 25-226 pour nous joindre. Courte pause.